Il est 8h41.
France Inter, le 7-9. Intervenez.
Au 01 45 24 7000 et beaucoup d'appels pour vous, Daniel Cohen, et pour parler, pour débattre de ce revenu universel. Patrick nous appelle de Nantes. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
À toute l'équipe et puis félicitations pour vos émissions.
Merci.
Oui, on sait qu'aujourd'hui, on ne vit pas avec 500 euros par mois. Je me posais la question, quel est l'intérêt de dépenser entre 300 et 500 milliards pour assister les gens plutôt que de créer des emplois et des nouveaux emplois, par exemple. Voilà.
Merci Patrick. Alors le premier élément de la question de Patrick, c'est l'un des arguments aussi, l'une des critiques de gauche, on l'a entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, c'est, dit-il, en dessous du seuil de pauvreté, quelques centaines d'euros, à quoi bon ?
Bon, bah, vous expliquerez ça aux gens qui aujourd'hui bénéficient du RSA socle, qui est autour de 500 euros, oui. 535, donc vous leur expliquerez qu'on ne peut pas vivre avec, ils seront d'accord, et c'est une des raisons pour lesquelles... En fait, quand on parle du revenu universel, on est sur des niveaux plus élevés. Alors, ça c'est gradué, ça peut être à 700, 750, 800, il y a même des propositions qui vont à 1000. Mais si on parle d'un revenu donné, encore une fois, à minima, on va dire à 700 euros pour simplifier, puisque c'est un peu le point médian des propositions qui circulent. Si, par ailleurs, et je crois que c'est important, on fait en sorte que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, un couple de gens qui sont au RSA, aujourd'hui, gagne moins que deux célibataires, une espèce de décote familiale. On ne gagne que 50% de plus quand on est en couple plutôt que quand on est deux fois seul. Ça coûterait 1 milliard de plus de donner deux fois le RSA à un couple plutôt qu'une fois et demie comme c'est le cas aujourd'hui. Alors on aurait un couple de gens au RSA dans cette formule ou au revenu universel qui toucherait deux fois 700, plus peut-être pour leurs enfants. C'est très insuffisant, mais je pense que ça permet d'exister. Et encore une fois, c'est le malentendu. Les gens qui plaident pour ça ne disent pas que c'est une manière de ne plus travailler du tout. Ils disent, en dotant les gens de ce socle, de ce revenu de base, vous leur donnez un peu de sécurité dans leur vie. Prenons mon exemple de deux personnes, ça ferait 1400 euros. On peut construire un raisonnement. Voilà combien je peux payer pour me loger, voilà combien je peux payer pour ceci ou cela. Et à partir de là, je crois fondamentalement qu'on donne l'envie d'aller travailler, beaucoup plus que dans la situation actuelle, on les enferme dans un piège de pauvreté parce que ça reste toujours peu ou prou conditionné au statut où vous êtes.
Deuxième aspect de la question de Patrick, la priorité budgétaire. Alors, pourquoi faudrait-il dépenser 300 à 500 milliards pour ce revenu universel plutôt que d'impulser des investissements, de soutenir l'emploi, les entreprises, etc.
Alors, moi, personnellement, voilà, c'est là que je quitte un peu le terrain de ceux qui sont des militants de la forme la plus pure, même si je comprends philosophiquement, même si, au fond, philosophiquement, dans mon cœur, je suis du côté de ce raisonnement, j'entends cet argument budgétaire. La France, aujourd'hui, n'a pas 300 milliards en réserve pour une expérimentation grandeur nature de cette sorte, et en effet, 300 milliards, je suis universitaire, le budget de l'enseignement supérieur, c'est 20 milliards, donc on pourrait multiplier par 10 le budget de l'enseignement supérieur. Bon, donc je suis obligé de voir ce qu'on pourrait faire aussi de cet argent, indépendamment de ce qu'on pourrait donner aux entreprises par rapport à ce qu'elles reçoivent déjà maintenant. Donc, je crois qu'il faut en effet atterrir, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'un revenu qui serait donné pour tous ceux qui sont en dessous, on va dire, de 2000 euros, avec un retour progressif en sifflet, vous avez les 700 euros ou les 800 euros purs au départ, et puis dans les simulations qui ont été faites par différents chercheurs, notamment à l'École d'économie de Paris, il faudrait en rendre un tiers, 32% à chaque euro que vous gagnez.
Que vous gagnez pas en étant salarié.
En étant salarié, en travaillant. En travaillant. Et donc, ça fait une transition harmonieuse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon de faire advenir cette idée que d'être réaliste fiscalement. Et avec cette mesure en sifflet, ça coûterait très peu. Enfin, par rapport au dispositif qui existe déjà, entre 5 et 10 milliards d'euros en plus, on pourrait faire quelque chose qui couvre très large, qui soit... universel, au sens où il n'y aurait aucune condition spécifique à remplir, si ce n'est que vous rendez un tiers de ce que vous gagnez, ce qui fait que à 2000 euros, le dispositif meurt de sa belle mort, si je puis dire. Donc, par personne. Donc voilà le genre de mécanisme que j'ai en tête qui permet, en effet, à la fois de faire avancer l'idée, ce qui me semble très intéressant, compte tenu de tout ce dont on a parlé, notamment dans le rapport à travail aujourd'hui, et en même temps d'être réaliste, et donc de ne pas avoir l'impression de gâcher l'argent public pour aider les enfants de Mme Bettencourt à disposer d'un revenu additionnel.
Romain nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Romain.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Pour votre, de prendre ma question. J'aurais voulu savoir quels étaient les risques de la mise en place d'une telle disposition sur une possible envolée des prix.
Est-ce que ça pourrait créer de l'inflation, une hausse des loyers, des services, etc., puisque les revenus augmenteraient pour tout le monde?
Oui, c'est une bonne question. Si c'était pour tout le monde, l'inflation, à la limite, ça serait pas très grave. On a besoin d'inflation un peu en France. On est plutôt autour d'une inflation zéro qui montre d'ailleurs, en effet, que la demande n'est sans doute pas assez soutenue. Quand l'inflation est si faible, ça veut dire que l'offre excède la demande. Mais je ferme cette parenthèse théorique pour dire que la question, en effet, qu'il faut prendre très au sérieux, c'est que si ça profite surtout, on va dire, aux couches les plus défavorisées de la société, on peut craindre une inflation des services qui sont offerts à ces personnes. Ça, c'est tout à fait logique de raisonner dans ces termes. Et d'ailleurs, l'aide personnalisée au logement, l'APL aujourd'hui, on sait qu'elle est inflationniste. C'est-à-dire qu'elle est donnée de telle manière que n'importe quel propriétaire qui loue aujourd'hui à des personnes à faible revenu un appartement ou un studio sait que c'est parce qu'il le calcule que cette personne va bénéficier d'une APL et il l'inclut dans le prix. Ce qui fait qu'en fait, à 80%, cette APL est devenue forfaitaire. C'est-à-dire, elle n'est plus contingente au loyer que vous payez parce que le loyer est par définition au-dessus. Donc oui, ça fait en effet partie des risques. Mais on les réduit un peu en le donnant de manière universelle. C'est-à-dire que quand c'est ciblé sur le logement, oui, les bailleurs savent qu'ils peuvent augmenter le prix du logement parce qu'ils savent que c'est lié à ça. Donc on allège un peu la pression inflationniste, je pense de façon significative par rapport à cette question du logement, en le donnant de manière forfaitaire, plutôt que de le donner spécifiquement pour acheter un bien particulier qui, lui, oui, c'est vrai, sera impacté de manière inflationniste par cette dotation.
Des questions d'auditeurs, Sabine notamment de Boulogne, qui vous demande que se passerait-il pour toutes les autres allocations si le revenu universel est mis en place. Il y a une substitution, il y aura une suppression des allocations de toutes sortes.
Alors,
Daniel Cohen.
Encore une fois, c'est peut-être là qu'est la grande opposition entre la droite et la gauche. Je pense que à droite, l'idée, en effet, on le voit un peu dans le programme de Fillon, c'est de dire voilà, je vous donne une allocation et puis ne venez plus me voir ensuite. On peut l'aligner
c'est,
par
c'est
exemple.
C'est pas formulé tout à fait comme ça, mais c'est vous qui le résumez. Le programme
très
de Fillon,
de...
c'est la fusion des diverses aides publiques en une allocation sociale. Unique,
qui ne dépasserait pas 75% du SMIC.
C'est-à-dire 847 euros.
Voilà, on vous donne ça, et puis ne venez pas demander un sou de plus, parce qu'on est dans un dispositif qui est clos pour vous-même. Donc moi, je pense pas du tout qu'il faut réagir comme ça. Je pense que c'est une allocation de base, mais qui ne doit pas dispenser d'autres efforts très importants que la société doit mener pour aller chercher les gens qui sont dans une situation de grande précarité. Et en effet, c'est vrai, ces 700 euros ne vont pas sortir miraculeusement les gens de la pauvreté, leur donner les moyens d'aller sur le marché du travail et d'affronter la compétition qu'ils vont rencontrer pour trouver un job. Donc, je crois qu'il faut assortir cette aide de toutes les autres choses qu'on doit faire et qu'on fait d'ailleurs insuffisamment en matière de formation professionnelle, d'aide au logement et autres, pour aider les gens à aller sur le marché de l'emploi. Mais en effet, l'idée, je crois, budgétaire, ce serait vous avez le droit au moins à 700 euros dans ce dispositif, et si les mécanismes existants vous donnent droit à 1000, bien vous toucherez bien entendu le delta de 300. Prenons un chômeur, il a ses 700 qui sont garantis par ce revenu universel, si ses droits au chômage c'est le double, 1400, on ne va pas le réduire à 700, on va lui donner la différence. C'est peut-être là en effet ce qui fait qu'on peut être à droite et à gauche pour la même mesure en ayant des arrière-pensées tout à fait différentes.
Janine nous appelle du Var, bonjour Janine.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Pardon, oui. Alors, je pensais à une chose, c'est que, alors, je pense que si vous donnez ce revenu minimum universel, eh bien, ça va inciter les étrangers des pays qui sont en guerre ou des pays sous-développés à affluer en France. Et ma foi, est-ce que les Français qui sont déjà sur le territoire, les Français et les autres qui sont déjà sur le territoire, est-ce qu'on pourra faire cet effort financier?
Merci Janine. Daniel Cohen.
Pas davantage que le RMI ou le RSA. On a déjà un dispositif avec le RMI inventé par Michel Rocard, on avait déjà franchi un peu le Rubicon de déconnecter les aides données aux personnes de leur travail. Et le RSA de Martin Hirsch est, est une forme un peu intermédiaire entre le dispositif dont on parle et le RMI. Bon, ça ne crée pas un afflux parce qu'il y a quand même des conditions de résidence qui sont associées à la distribution de ce revenu qui resterait a priori les mêmes. Donc je ne crois pas qu'il y ait à craindre davantage qu'en effet on a eu à le craindre pour le RMI. Ça faisait déjà partie de la discussion à l'époque, ou du RSA, d'afflux de migrants, les conditions de résidence resteraient les mêmes, et c'est bien ça qui fait la différence entre un migrant et quelqu'un qui est résident en France. Mais c'est la résidence en France, en effet, et c'est pas la nationalité française, dans l'exemple du RMI ou du RSA, qui fait que vous avez droit à ces allocations.
Plus généralement, Daniel Cohen, je crois que vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure que je soulevais sur la numérisation et la robotisation de la société. Est-ce que vous croyez, vous, qu'à l'avenir, il peut y avoir encore du travail pour tout le monde?
Non, je pense qu'il y aura du travail pour tout le monde. Je crois, comme un vieil économiste, que l'offre crée sa propre demande. Quand les gens veulent travailler, ils trouvent un emploi. Maintenant, la vraie question, elle est de savoir quels emplois. Qu'est-ce que fait le monde numérique? Quels sont les emplois qui sont créés? Quels sont les emplois qui sont détruits? Quels sont les emplois qui vont survivre à ce raz-de-marée numérique? C'est ça, la vraie question. Alors, là, pour le coup, on a des réponses. Les économistes ont regardé un peu dans le détail à cette question. On a longtemps pensé que le clivage était qualifié, non qualifié. Vous êtes qualifié, vous parlez anglais, vous êtes très fort, vous êtes un crack en informatique, vous aurez un emploi dans le monde numérique, vous êtes plus ou moins un alphabète, parlez pas anglais, vous n'avez aucune chance dans le monde numérique. On s'est rendu compte que ça n'était pas ça qui se passait. Ce qui est en train de se produire, c'est est-ce que vous avez un travail, je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs à l'occasion de la sortie de mon livre, est-ce que vous avez un travail routinier qui se répète et à ce moment-là, vous allez être numérisé. Le mantra des informaticiens que je citais l'année dernière, je crois...
Il y aura une substitution.
C'est de dire, si vous faites deux fois le même job, alors la troisième fois, le logiciel le fera à votre place. Donc, dès que vous êtes dans un travail routinier, comme moi-même en ce moment, en racontant cette histoire, alors vous allez être numérisé. Si vous faites un travail qui n'est pas numérisable, c'est-à-dire qui ne se répète pas, alors vous allez survivre. Alors ça concerne qui? Les deux bouts de la chaîne sociale. Tout en haut, les créatifs, voilà, nous encore une fois. Et puis en bas aussi, les emplois de face à face. Les emplois, il faut s'occuper des personnes, où il faut saisir une émotion, les assistantes sociales, les infirmiers, bref, des gens qui ne sont pas forcément les plus qualifiés, mais qui sont, dans un rapport aux autres, non numérisables. Ceux-là vont survivre aussi. Et c'est le milieu de la distribution de revenus. C'est pour ça que la pression numérique est d'une nature différente de celle qu'on observait avant et qu'elle inquiète. C'est dans le milieu de la distribution des emplois intermédiaires, ceux qui consistent à dire « fais ceci, fais cela ». Au fond, les emplois qui forment le cœur de la classe moyenne, c'est là que le numérique est en train de ronger les emplois parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour donner des instructions du haut vers le bas. Le numérique s'en charge. Donc, il y a un formidable travail de réinvention des emplois pour la classe moyenne qui est en train de se poser aujourd'hui. Tout le monde sait que la question numéro un, c'est qu'est-ce que mes enfants vont faire? Quel type d'études ils doivent faire qui survivront au raz-de-marée numérique? Ça crée une anxiété nouvelle par rapport au travail. Et je pense que des discussions comme celles qu'on est en train d'avoir sur le revenu universel contribue à réfléchir autrement sur le rapport au travail, à se dire je ne serai plus dans l'anxiété répétée de trouver un emploi, j'aurai un coussin de sécurité, je serai protégé des aléas de l'existence. Voilà, c'était le projet de base de ce revenu de base.
On va marquer une pause avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver Nicole Ferroni.